Chapitre 14. Léa et Falada. Aide là. Une rencontre sur la route. Les loups. Deux lunes. 1. On parla pendant une heure. Surtout moi, en définitive. Mais ce fut suffisant pour me permettre de constater que ce n'était pas une fille de ferme ordinaire. En disant cela, je dois paraître snob. Comme si je ne croyais pas qu'une fille de ferme puisse être intelligente, ou jolie, voire belle. Loin de moi cette idée. Je suis même sûr qu'il existe quelque part dans ce vaste monde une fille de ferme ventriloque. Mais il y avait autre chose chez elle. Quelque chose en plus. Elle dégageait une certaine assurance, un air, comme si elle était habituée à ce que les gens, et pas uniquement les garçons de ferme, lui obéissent. Et son hésitation initiale passée, sans doute due à mon apparition soudaine, elle n'exprima plus aucune peur. Inutile de vous préciser, j'imagine, que cette heure me suffit aussi pour tomber raide dingue d'elle. Vous l'aviez déjà deviné. Ça se passe comme ça dans ces histoires, n'est-ce pas? Mais pour moi, ce n'était pas une histoire. C'était ma vie. Et voilà bien la veine de Charlie Reed. Tombé amoureux d'une fille qui non seulement était plus âgée, mais que je ne pourrais jamais embrasser sur la bouche. Cela étant dit, j'aurais été heureux de pouvoir embrasser la cicatrice qui la remplaçait, pour vous dire combien j'étais mordu. Autre chose dont j'avais conscience, bouche ou pas bouche, elle n'était pas faite pour quelqu'un comme moi. Car elle était plus qu'une fille qui nourrit les oies, beaucoup plus. Et puis, comment vivre une histoire d'amour avec une jolie fille qui doit s'adresser à son Roméo épris par l'intermédiaire d'un cheval? Car c'était ce qu'on faisait. 2. Il y avait une gloriette près du jardin. On alla s'y asseoir autour d'une petite table ronde. Deux ouvriers agricoles émergèrent du champ de maïs pour se diriger vers la grange en tenant des paniers pleins. Et j'en déduisis que c'était l'été ici, et non pas le début du mois d'octobre. La jument broutait l'herbe non loin de là. Une fille, à la peau grise et au visage salement déformé, vint déposer un plateau devant nous. Dessus se trouvaient deux serviettes en tissu, un verre et deux pichets, un grand et un autre de la taille de ces petits pichets de crème et de lait qu'on vous apporte dans les diners. Le grand semblait contenir de la citronnade. Dans le petit, il y avait une sorte de matière visqueuse jaune qui aurait pu être de la purée de courge. La gardeuse d'oie me fit signe de remplir le verre avec le grand pichet et de boire. Ce que je fis, non sans une certaine gêne, car j'avais une bouche pour boire. « C'est bon !» dis-je. Et c'était vrai. Un parfait mélange entre le sucré et l'acidité. La fille à la peau grise se tenait toujours à côté de la gardeuse d'oie. Elle montra la substance visqueuse jaune dans le petit pichet. La gardeuse d'oie hocha la tête, mais un soupir inaudible élargit ses narines et la cicatrice qui remplaçait sa bouche s'affaissa légèrement. La fille qui nous avait servi sortit de la poche de sa robe, aussi grise que sa peau, un tube de verre. Elle se pencha en avant, sans doute pour le plonger dans la substance visqueuse, mais la gardeuse d'oie lui prit le tube et le posa sur la table. Elle leva les yeux vers la fille et hocha la tête en joignant les mains devant elle, comme pour dire « Namasté ». La fille hocha la tête à son tour et s'en alla. Après son départ, la gardeuse d'oie tapa dans ses mains pour appeler la jument. Celle-ci s'approcha et laissa pendre sa tête entre nous, par-dessus la barrière, sans cesser de mastiquer sa dernière bouchée d'herbe. « Je m'appelle Falada », dit la jument. Mais sa bouche ne remuait pas comme celle des marionnettes assises sur les genoux des ventriloques. Elle mâchonnait, simplement. Je ne savais pas pourquoi la fille continuait ce numéro. « Ma maîtresse s'appelle Léa. » Par la suite, j'appris la prononciation correcte de ce nom, grâce à Dora, mais ce jour-là, j'entendis « Léa », comme dans Star Wars. Ce qui n'avait rien de surprenant après tout ce qui s'était passé. J'avais rencontré récemment une version de Rumpelstiltskin et une vieille femme qui vivait, non pas dans une chaussure, mais sous une enseigne qui en représentait une. Moi-même, j'étais une incarnation de Jack, le garçon aux haricots magiques. Et puis, Star Wars, n'était-ce pas un conte de fées avec de formidables effets spéciaux ? Ravi de vous rencontrer l'une et l'autre, dis-je. De toutes les choses qui m'étaient arrivées ce jour-là, d'autres plus étranges encore m'attendaient, celle-ci était, à bien des égards, la plus étrange. Ou peut-être devrais-je dire, la plus surréaliste. Je ne savais pas si je devais regarder la fille ou la jument. Alors, je passais de l'une à l'autre comme le spectateur d'un match de tennis.
C'est Adrian qui t'envoie ?
Oui, mais je l'ai connu sous le nom de Howard. Il s'appelait Adrian avant. Depuis quand vous ne l'avez pas vu ? Léa réfléchit en fronçant les sourcils. Même son froncement de sourcils était gracieux. Je vais m'efforcer d'éviter ce genre de commentaires à partir de maintenant, mais ça ne sera pas facile. Finalement, elle leva la tête.
« J'étais beaucoup plus jeune, » dit Falada. « Adrian aussi. Il avait un chien. Un chiot, plutôt. Il sautait partout. Et il avait un drôle de nom.
Radar.
Oui, voilà. »
La jument continuait à mâchonner, indifférente.
« Adrian est décédé. Si tu es ici avec sa ceinture et son arme, je suppose que oui. »
« Oui. »
« Il a refusé de faire un tour de plus sur le cadran solaire, alors. Dans ce cas, sage décision. »
En effet, je bus une gorgée de citronnade, reposai le verre et me penchai en avant. « Je suis venu pour Radar. Elle est vieille maintenant. J'ai décidé de la conduire jusqu'à ce cadran solaire pour voir si je peux... » Soudain, je songeais à un autre conte de fées de science-fiction intitulé « L'âge de cristal ». Si je peux la faire rajeunir, j'ai quelques questions.
Raconte-moi ton histoire d'abord,
dit Falada.
Ensuite, peut-être que je répondrai à tes questions, si ça s'impose.
Permettez-moi de m'interrompre pour préciser que si j'obtins quelques informations de Léa via Falada, elle en obtint beaucoup plus de moi. Elle avait une certaine façon de se comporter, comme si elle était habituée à ce qu'on lui obéisse. Je l'ai dit, mais sans méchanceté, sans agressivité. Certains individus bien élevés semblent comprendre qu'ils ont l'obligation de se montrer agréables et polis, et cette obligation est double quand ils n'y sont pas contraints. Mais qu'ils soient agréables ou pas, ils obtiennent généralement ce qu'ils veulent. Désireux d'être de retour chez Dora avant le coucher du soleil, j'ignorais ce qui pouvait jaillir de ces bois à la nuit tombée, je m'en tins principalement à ma mission. Je racontais à Léa comment j'avais rencontré M. Bodditch, comment je m'étais occupé de lui et comment on était devenus amis. Je lui parlais de l'or, je lui expliquais que j'en avais suffisamment pour le moment, mais que peut-être il m'en faudrait davantage à l'avenir pour protéger le puits conduisant dans ce monde face aux habitants du mien qui risquaient d'en faire mauvais usage. Je ne pris pas la peine d'ajouter que je devrais trouver un moyen de transformer cet or en argent liquide maintenant que M. Heinrich était mort. Car plus tard, lui confiai-je, dans des années, il faudra payer des taxes, et elles sont sacrément élevées. Vous connaissez les taxes ?
Oui,
répondit Falada. Mais dans l'immédiat, c'est Radar qui m'inquiète. Le cadran solaire se trouve en ville, n'est-ce pas ?
Oui. Mais si tu vas là-bas, tu dois être très silencieux et suivre les repères d'Adrian. Et tu ne dois jamais, jamais y aller la nuit. Car tu fais partie des personnes saines.
Saines. Elle tendit la main par-dessus la table pour toucher mon front, ma joue, mon nez et ma bouche. Ses doigts étaient légers, leur contact fugitif, et pourtant je fus parcouru de nouvelles décharges électriques.
Oui, saine,
dit Falada.
Pas grise, pas souillée.
Que s'est-il passé ? Demandai-je. Ses gogues, la main de Léa fut moins légère cette fois. Elle la plaqua sur ma bouche, si fort que mes lèvres s'écrasèrent contre mes dents. Elle secoua la tête. « Ne prononce jamais son nom. Tu pourrais le réveiller. » Elle porta son autre main à sa gorge en caressant sa mâchoire du côté droit. « Vous êtes fatigué, » dis-je. « Les efforts que vous produisez pour parler doivent être terribles. » Elle acquiesça. « Je vais y aller, » dis-je,
Peut-être qu'on pourra se parler demain. »
Je commençais à me lever, mais elle me fit signe de rester assis. L'ordre était clair. Radar aurait très bien compris ce que signifiait son index tendu. Couché. Elle introduisit le tube de verre dans la substance jaune visqueuse, puis posa l'index de sa main droite sur l'espèce de petit bouton rouge à côté de la cicatrice, unique imperfection sur sa peau magnifique. Je constatai alors que tous ses ongles, à l'exception de celui de cet index, étaient courts. Elle enfonça l'ongle dans la marque rouge, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et elle tira. La chair s'écarta et un filet de sang coula jusqu'à sa mâchoire. Elle inséra la paille de verre dans le petit trou qu'elle avait ouvert et ses joues se creusèrent lorsqu'elle aspira ce qui lui servait d'aliment. La moitié du contenu du petit pichet disparut. Une simple gorgée m'aurait suffi à le vider. Sa gorge se contracta plusieurs fois. Cette substance devait être aussi dégoûtante qu'il y paraissait car elle avait du mal à l'avaler. Elle retira la paille de ce qu'on aurait pu appeler une incision de trachéotomie si elle avait été pratiquée dans sa gorge. Le trou se referma immédiatement, mais la marque rouge paraissait plus enflammée que jamais. Une injure faite à sa beauté. « C'était suffisant ?» demandai-je, atterré. « Je ne puis m'en empêcher. Vous avez à peine bu. » Elle hocha la tête avec une sorte de lassitude. L'ouverture est douloureuse et à force de manger toujours la même chose, ça n'a plus de goût. Parfois, je me dis que je devrais me laisser mourir de faim, mais cela ferait trop plaisir à certains. Elle pencha la tête vers la gauche, dans la direction d'où je venais et où se dressait la ville. Désolé, dis-je, si je peux faire quelque chose. Elle me fit comprendre d'un signe de tête qu'elle comprenait. Tout le monde aurait aimé faire quelque chose pour elle, évidemment. Les gens se seraient même battus pour être les premiers. Et elle joignit ses mains. Namasté. Elle prit une des serviettes pour essuyer le filet de sang. J'avais entendu parler des malédictions. Les livres de contes en étaient pleins. Mais c'était la première fois que j'en voyais une en action.
« Suis ses repères, » déclara Falada. « Ne te perds pas. » Ou sinon, les soldats de la nuit t'arrêteront. Et Rada aussi.
Ce nom devait être difficile à prononcer pour elle, car il ressemblait plutôt à Rayard. Et il me rappela l'accueil délirant que Dora avait réservé à la chienne.
Le cadran solaire se trouve sur la place du stade, derrière le palais. Tu peux accomplir ton objectif si tu es rapide et discret. Quant à l'orne dont tu parlais, il se trouve à l'intérieur. T'en emparer sera beaucoup plus dangereux.
Léa, vous avez vécu dans ce palais autrefois ?
Il y a longtemps,
répondit Falada. Vous êtes ? Je dus me faire violence pour poser cette question, même si la réponse me paraissait évidente. Vous êtes une princesse. Elle baissa la tête.
Elle l'était.
Léa parlait d'elle à la troisième personne maintenant, par l'intermédiaire de Falada.
La plus petite princesse parmi tous les autres, car elle avait quatre sœurs plus âgées et deux frères. Des princes, si tu préfères. Ses sœurs sont mortes. Drusilla, Elena, Joyline et Falada, dont je porte le nom. Robert est mort. Elle a vu son pauvre corps broyé. Elden, qui avait toujours été bon avec elle, est mort aussi. Sa mère et son père également. Il reste peu de membres de sa famille.
Je ne disais rien. J'essayais d'assimiler l'énormité d'une telle tragédie. J'avais perdu ma mère et c'était déjà horrible.
Tu dois aller voir l'oncle de ma maîtresse. Il vit dans la maison de briques, près de la route du front de mer. Il t'en dira plus. Ma maîtresse est très fatiguée maintenant. Elle te souhaite de faire bon voyage. Tu dois passer la nuit chez Dora.
Je me levai. La masse informe du soleil avait presque atteint la cime des arbres.
Ma maîtresse te souhaite bonne chance. Elle dit que si tu fais rajeunir la chienne d'Adrienne, Comme tu l'espères. Il faudra que tu la ramènes ici pour que ma maîtresse la voie sautiller et courir comme avant.
Promis. Puis-je poser une dernière question ?
Léa hocha la tête avec lassitude et leva la main. Parle, mais sois bref.
Je sortis de ma poche les petites chaussures de cuir et les lui montrai. Puis, me sentant un peu idiot, je les montrai à Falada, qui n'exprima pas le moindre intérêt.
C'est Dora qui me les a données, mais je ne sais pas quoi en faire.
Léa sourit avec ses yeux et caressa le chanfrein de Falada.
Tu risques de croiser des voyageurs en retournant chez Dora. S'ils sont pieds nus, ils lui ont confié des chaussures abîmées ou usées à réparer. Si tu vois leurs pieds nus, donne-leur ces bons. Plus loin, sur cette route.
Elle montra un point à l'opposé de la ville.
Il y a une petite boutique qui appartient au frère cadet de Dora. Si les voyageurs lui montrent ses échantillons, il leur donnera des chaussures neuves.
Je réfléchis. Dora répare les chaussures abîmées. Léa hocha la tête.
Les gens qui n'ont plus une chaussure vont voir son frère dans sa boutique.
Même réponse. Et quand les chaussures sont réparées, comme j'espère, requinquer radar, Dora les apporte à son frère. Même réponse. Son frère les vend ?
Cette fois, Léa secoua la tête.
Pourquoi donc ? Le but d'un commerce, c'est de faire des bénéfices.
Il n'y a pas que les bénéfices dans la vie,
dit Falada.
Ma maîtresse est très fatiguée. Elle doit se reposer maintenant.
Léa prit ma main et la serra dans la sienne. Je n'ai pas besoin de vous décrire l'effet que cela produisit en moi. Elle la lâcha et frappa dans ses paumes, juste une fois. Falada repartit d'un pas tranquille. Un des garçons de ferme à la peau grise sortit de la grange et lui donna une petite tape sur le flanc. La jument prit la direction de la grange de son plein gré, accompagnée de l'homme gris qui marchait à sa hauteur. Lorsque je me retournai, la fille qui avait apporté la citronnade et la purée était là. Elle m'adressa un signe de tête et me montra la maison et la route au-delà. L'audience, car il s'agissait bien de cela sans aucun doute, était terminée.
« Au revoir et merci, »
dis-je. Léa joignit ses mains devant elle, « Namasté », baissa la tête et noua ses mains sur son tablier. La servante, ou la dame de compagnie peut-être, m'accompagna jusqu'à la route. Sa longue robe grise frottait contre le sol. « Vous pouvez parler ?» lui demandai-je.
« Un peu. »
Sa voix était un croassement poussiéreux.
« Fait mal. »
On atteignit la grande route. Je montrai la direction d'où j'étais venu.
La maison en briques de son oncle est loin d'ici ? Vous le savez ?
Elle leva un doigt gris et tordu.
Un jour,
dis-je, elle hocha la tête.
C'était la forme de communication la plus répandue par ici, et je m'en apercevais. Pour les personnes qui ne possédaient pas des talents de ventriloque, évidemment.
Une journée de marche, donc, pour atteindre l'oncle. S'il y avait 30 kilomètres, ça voulait dire un jour de plus pour atteindre la ville. Deux, plus vraisemblablement, voire trois. En comptant le trajet du retour jusqu'au couloir qui menait au puits, ça faisait 6 jours en tout, en supposant que tout se passe bien. D'ici là, mon père serait rentré, il aurait signalé ma disparition. Il prendrait peur, et peut-être qu'il recommencerait à boire. Je mettais en danger la santé de mon père pour sauver une chienne. Et même si ce cadran solaire magique existait, qui pouvait affirmer que ça fonctionnerait avec un vieux berger allemand ? Je m'apercevais, vous allez dire que j'aurais pu me réveiller avant, que mon projet n'était pas seulement insensé, il était égoïste. Si je rentrais à la maison maintenant, personne ne saurait rien. Certes, il faudrait que je réussisse à ressortir du cabanon, en supposant qu'Andy avait fermé le cadenas, mais je pensais être suffisamment fort pour ça. Dans l'équipe de football de Hillview, je faisais partie des rares joueurs qui réussissaient non seulement à faire reculer le mannequin de plaquage, mais à le renverser. Et puis, il y avait une autre raison. J'avais le mal du pays.
Je n'étais parti que quelques heures, mais maintenant que la journée touchait à sa fin dans ce triste décor au ciel chargé, où seuls les grands champs de coquelicots apportaient un peu de couleur, oui, j'avais le mal du pays. Je décidai de récupérer radar et de rentrer, pour établir un nouveau plan d'attaque, qui me permettrait de m'absenter une semaine, ou même deux, sans inquiéter personne. J'ignorais à quoi ressemblerait ce plan, et je crois que tout au fond de moi, dans ce petit placard obscur où on essaie de se cacher à soi-même ses secrets, je savais que je tergiverserais jusqu'à ce que Radar meure, mais telle était mon intention. Du moins, jusqu'à ce que la servante grise me prenne par le coude. Pour autant que je pouvais en juger d'après ce qui restait de son visage, ce geste la terrorisait. Sa main était ferme néanmoins. Elle m'attira vers elle, se dressa sur la pointe des pieds et me murmura de son croassement douloureux.
« Elle !»